Monsieur Rousseau, je vous remercie de nous recevoir ici à Ermenonville. Vous êtes écrivain, pédagogue, philosophe, même compositeur. Vous êtes un des représentants importants du siècle de Lumière. Vous avez écrit un livre avec le titre Émile. Vous y...
Le titre exact est Émile ou de l'éducation.
Oh, pardon. Votre livre raconte la vie et l'éducation d'Émile. Vous y jetez un regard critique sur l'éducation.
Oui.
Quels sont vos principes?
Vous savez, tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, et tout dégénère entre les mains de l'homme. Il force une terre à nourrir les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre. Il mêle et confond les climats, les éléments, les saisons. Il mutile son chien, son cheval, son esclave. Il bouleverse tout, il défigure tout. Il aime la difformité, les monstres. Il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas même l'homme. Il le faut dresser pour lui comme un cheval de manège. Il le faut contourner à sa mode, comme un arbre de son jardin.
Alors, Émile est un exemple, n'est-ce pas?
Mais quant aux règles qui pouvaient avoir besoin de preuves, je les ai toutes appliquées à mon Émile ou à d'autres exemples. Et j'ai fait voir dans des détails très étendus comment ce que j'établissais pouvait être pratiqué. Tel est du moins le plan que je me suis proposé de suivre. C'est au lecteur à juger si j'ai réussi.
Alors, ce qui m'intéresse, vous n'êtes pas le père d'Émile?
Émile est orphelin. Il n'importe qu'il ait son père et sa mère. Chargé de leurs devoirs, je succède à tous leurs droits. Il doit honorer ses parents, mais il ne doit obéir qu'à moi-même. C'est ma première, ou plutôt ma seule condition.
Vous recommandez qu'on laisse du temps aux enfants?
Oui, les enfants qu'on presse trop de parler n'ont le temps ni d'apprendre à bien prononcer, ni de bien concevoir ce qu'on leur a fait dire, au lieu que, quand on les laisse aller d'eux-mêmes, ils s'exercent d'abord aux syllabes les plus faciles à prononcer, et y joignant peu à peu quelques significations qu'on entend par leurs gestes, ils vous donnent leurs mots avant de recevoir les vôtres. Cela fait qu'ils ne reçoivent ceux-ci qu'après les avoir entendus. N'étant point pressés de s'en servir, ils commencent par bien observer quel sens vous leur donnez. Et quand ils s'en sont assurés, ils les adoptent.
De même, vous souhaitez que votre enfant devienne indépendant.
Pour mon élève, ou plutôt celui de la nature, exercer de bonne heure à se suffire à lui-même autant qu'il est possible, il ne s'accoutume point à recourir sans cesse aux autres, encore moins à leur étaler son grand savoir. En revanche, il juge, il prévoit, il raisonne en tout ce qui se rapporte immédiatement à lui. Il ne jase pas, il agit. Il ne sait pas un mot de ce qui se fait dans le monde, mais il sait fort bien faire ce qui lui convient. Comme il est sans cesse en mouvement, il est forcé d'observer beaucoup de choses, de connaître beaucoup d'effets, il acquiert de bonne heure une grande expérience. Il prend ses leçons de la nature et non pas des hommes. Il s'instruit d'autant mieux qu'il ne voit nulle part l'intention de l'instruire. Ainsi son corps et son esprit s'exercent à la fois. Agissant toujours d'après sa pensée et non d'après celle d'un autre, il unit continuellement deux opérations. Plus il se rend fort et robuste, plus il devient sensé et judicieux. C'est le moyen d'avoir un jour ce qu'on croit incompatible et ce que presque tous les grands hommes ont réuni, la force du corps et celle de l'âme, la raison d'un sage et la vigueur d'un athlète.
Ça m'intéresse beaucoup, cette manière d'observer, cela vaut aussi pour l'éducateur?
Au reste, une erreur difficile à éviter dans les occupations pour lesquelles le maître se passionne est de supposer toujours le même goût à l'enfant. Gardez, quand l'amusement du travail vous emporte, que lui cependant ne s'ennuie sans vous l'oser témoigner. L'enfant doit être tout à la chose, mais vous devez être tout à l'enfant, l'observer, l'épier sans relâche et sans qu'il y paraisse. Pressentir tous ses sentiments d'avance et prévenir ceux qu'il ne doit pas avoir. L'occuper, enfin, de manière que, non seulement il se sente utile à la chose, mais qu'il s'y plaise à force de bien comprendre à quoi sert ce qu'il fait.
Vous évoquez la nature. On a toujours dit, dans beaucoup des livres sur vos œuvres, que vous favorisez un retour à la nature.
Nous naissons faibles, nous avons besoin de force. Nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d'assistance. Nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n'avons pas à notre naissance, et dont nous avons besoin étant grand, nous est donné par l'éducation. Cette éducation nous vient de la nature, ou des hommes, ou des choses. Le développement interne de nos facultés et de nos organes est l'éducation de la nature. L'usage qu'on nous apprend à faire de ce développement est l'éducation des hommes et l'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent est l'éducation des choses. Or, de ces trois éducations différentes, je veux dire celle de la nature, ne dépend point de nous. Celle des choses n'en dépend qu'à certains égards. Celle des hommes est la seule dont nous soyons vraiment les maîtres. Encore ne le sommes-nous que par supposition. Car qui est-ce qui peut espérer de diriger entièrement les discours et les actions de tous ceux qui environnent un enfant?
Pourriez-vous préciser la part qui revient à la nature?
La nature, nous dit-on, n'est que l'habitude. Que signifie cela? N'y a-t-il pas des habitudes qu'on ne contracte que par force et qui n'étouffent jamais la nature? Telle est, par exemple, l'habitude des plantes dont on gêne la direction verticale. La plante mise en liberté garde l'inclinaison qu'on l'a forcée à prendre, mais la sève n'a point changé pour cela sa direction primitive, et si la plante continue à végéter, son prolongement redevient vertical. Il en est de même des inclinations des hommes. Tant qu'on reste dans le même état, on peut garder celles qui résultent de l'habitude et qui nous sont les moins naturelles. Mais sitôt que la situation change, l'habitude cesse et le naturel revient. L'éducation n'est certainement qu'une habitude. Or, n'y a-t-il pas des gens qui oublient et perdent leur éducation? D'autres qui la gardent? D'où vient cette différence? S'il faut borner le nom de nature aux habitudes conformes à la nature, on peut s'épargner ce galimatia.
Si l'on lit bien votre livre, vous nous mettez en garde de donner un trop grand poids à la nature.
Oui, celui qui, dans l'ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature, ne sait ce qu'il veut, toujours en contradiction avec lui-même, toujours flottant entre ses penchants et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen. Il ne sera bon ni pour lui, ni pour les autres. Ce sera un de ces hommes de nos jours, un Français, un Anglais, un bourgeois, ce ne sera rien.
Alors, il faut prendre une décision, la nature ou, vous dites, homme ou citoyen?
Pour être quelque chose, pour être soi-même, et toujours un, il faut agir, comme on parle. Il faut être toujours décidé sur le parti que l'on doit prendre, le prendre hautement et le suivre toujours. J'attends qu'on me montre ce prodige pour savoir s'il est homme ou citoyen, ou comment il s'y prend pour être à la fois l'un et l'autre.
Bon, quelle solution proposez-vous? Une éducation selon la nature?
Dans l'ordre naturel, les hommes étant tous égaux, leur vocation commune est l'état d'homme. Et quiconque est bien élevé pour celui-là ne peut mal remplir ceux qui s'y rapportent. Qu'on destine mon élève à l'épée, à l'église, au barreau, peu importe. Avant la vocation des parents, la nature l'appelle à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il sera premièrement homme, tout ce qu'un homme doit être. Il saura l'être au besoin tout aussi bien que qui que ce soit. Et la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Fortune, j'ai obstrué tous les accès pour que tu ne puisses pas parvenir jusqu'à moi.
Vous donnez une grande place à la nature, c'est vrai comme ça, n'est-ce pas?
Oui, on ne songe qu'à conserver son enfant, ce n'est pas assez. On doit lui apprendre à se conserver étant homme, à supporter les coups du sort, à braver l'opulence et la misère, à vivre, s'il le faut, dans les glaces d'Islande ou sur le brûlant rocher de Malte. Vous avez beau prendre des précautions pour qu'il ne meure pas, il faudra pourtant qu'il meure. Et quand sa mort ne serait pas l'ouvrage de vos soins, encore serait-il mal entendu. Il s'agit moins de l'empêcher de mourir que de le faire vivre. Vivre, ce n'est pas respirer, c'est agir. C'est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer à 100 ans, qui mourut dès sa naissance. Il eût gagné d'aller au tombeau dans sa jeunesse, s'il eût vécu du moins jusqu'à ce temps-là.
Cependant, monsieur, vous avez une vision très précise de la vie sociale.
La pratique des arts naturels auxquels peut suffire un seul homme mène à la recherche des arts d'industrie et qui ont besoin du concours de plusieurs mains. Les premiers peuvent s'exercer par les solitaires, par des sauvages. Mais les autres ne peuvent naître que dans la société et la rendre nécessaire. Tant qu'on ne connaît que le besoin physique, chaque homme se suffit à lui-même. L'introduction du superflu rend indispensable le partage et la distribution du travail, car bien qu'un homme travaillant seul ne gagne que la subsistance d'un homme, 100 hommes travaillant de concert gagneront de quoi en faire subsister 200. Sitôt donc qu'une partie des hommes se repose, il faut que le concours des bras de ceux qui travaillent supplée à l'oisiveté de ceux qui ne font rien.
Cela exclut donc tout retour à la nature.
Sur ce principe, à un homme qui voudrait se regarder comme un être isolé, ne tenant du tout à rien et se suffisant à lui-même, ne pourrait être que misérable. Il lui serait même impossible de subsister, car trouvant la terre entière couverte du tien et du mien, et n'ayant rien à lui que son corps, d'où tirerait-il son nécessaire ? En sortant de l'état de nature, nous forçons nos semblables d'en sortir aussi. Nul n'y peut demeurer malgré les autres, et ce serait réellement en sortir que d'y vouloir rester dans l'impossibilité d'y vivre, car la première loi de la nature est le soin de se conserver.
Vous êtes un éducateur sévère, austère même ?
Ah, si je veux être austère et sec avec mon disciple, je perdrai sa confiance, et bientôt il se cachera de moi. Si je veux être complaisant, facile ou fermer les yeux, de quoi lui sert d'être sous ma garde ? Je ne fais qu'autoriser son désordre et soulager sa conscience aux dépens de la mienne. Si je l'introduis dans le monde avec le seul projet de l'instruire, il s'instruira plus que je ne veux. Si je l'en tiens éloigné jusqu'à la fin, qu'aura-t-il appris de moi ? Tout peut être hors l'art, le plus nécessaire à l'homme et au citoyen, qui est de savoir vivre avec ses semblables. Si je donne à ses soins une utilité trop éloignée, elle sera pour lui comme nulle. Il ne fait cas que du présent. Si je me contente de lui fournir des amusements, quel bien lui fais-je ? Il s'amollit et ne s'instruit pas.
Vous proposez une morale à votre enfant.
Oui, il faut une morale en parole et une en action dans la société. Et ces deux morales ne se ressemblent point. La première est dans le catéchisme, où on la laisse. L'autre est dans les fables de La Fontaine pour les enfants et dans ses contes pour les mères. Le même auteur suffit à tout.
Vous voulez éduquer votre enfant pour la vie en société ?
Vous vous fiez à l'ordre naturel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants.
Vous prévoyez des révolutions ?
Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt ? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors ? Tout ce qu'ont fait les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature. Et la nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Que sera donc, dans la bassesse, ce satrape que vous n'avez élevé que pour la grandeur ? Que fera dans la pauvreté ce républicain qui ne sait vivre que d'or? Que fera dépourvu de tout ce fastueux imbécile qui ne sait point user de lui-même et ne met son être que dans ce qui est étranger à lui?
Et à la fin, monsieur, votre résumé.
Oh, mon résumé. Heureux celui qui sait quitter alors l'État qui le quitte et rester homme en dépit du sort.
Oh, merci, monsieur. Je vous remercie de votre accueil.
Je vous
merci
en
beaucoup.
Prie, je vous en prie.